Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui fait résonner notre époque. Des hommes et des femmes, des Afghans et une définition du courage, celui qu'il fallait pour manifester aujourd'hui à Kaboul en brandissant le drapeau national au cri de longue vie à l'Afghanistan. 4 jours après la reprise du pouvoir par les talibans, quelques marques de résistance civile émergent, mais c'est le désespoir qui domine, celui d'un peuple qui a appris à vivre en liberté et sur lequel la chape de plomb de l'obscurantisme vient de s'abattre à nouveau, alors qu'il s'apprête à sortir un nouveau livre sur les suites du 11 septembre 2001 et que son travail sur les talibans est exposé en ce moment à Arles. Le photographe et photojournaliste Thomas Dvorak est notre premier invité ce soir. La liberté des femmes, un combat cher à notre deuxième invitée. Elle est rappeuse, féministe et fière de ses identités mêlées. Sa route l'a menée de l'Inde au Portugal et à l'Espagne, puis en France. Elle s'apprête à sortir un deuxième album dont elle nous interprétera un extrait inédit en live dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Tracy Dessa est avec nous ce soir.
France Inter. Sonia Khironi, un monde nouveau.
Jamais à l'abri de l'ancien, le monde nouveau. Et ce soir sur France Inter. White Back, fruit de la collaboration du chanteur néerlandais Benny Sings et de l'américain Cassius Clay. The Bridge, c'est le titre de son nouveau livre qui paraîtra début septembre sur le monde de l'après 11 septembre. Ce monde, Thomas Dvorak l'a sillonné ces 20 dernières années de l'Afghanistan à l'Irak, en passant par le Caucase, photographe de l'agence Magnum, dont il a été le président de 2017 à 2020. Il a été récompensé plusieurs fois par son travail, dont la plus prestigieuse distinction, le World Press Photo en 2001 pour son travail en Tchétchénie, alors que les talibans viennent de reprendre le pouvoir en Afghanistan à quelques jours du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. On a eu envie ce soir, dans un monde nouveau, d'avoir son point de vue sur ce monde ancien qui fait son retour. Bonsoir Thomas Dvorak.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous depuis la Géorgie. Je crois que vous poursuivez un travail entamé de longue date déjà. Alors c'était dimanche, les talibans reprennent le contrôle sur Kaboul sans rencontrer aucune résistance de l'armée afghane.
L'image est historique. En direct devant la caméra d'Al Jazeera, les talibans, Kalachnikov à l'épaule, entrent dans le palais présidentiel. Direction le bureau de l'ancien président afghan qui vient de s'enfuir. Un commandant prend place derrière la table. Ses hommes immortalisent l'instant. Les fondamentalistes islamistes sont de nouveau les maîtres de Kaboul.
Extrait du journal de France 24 dimanche dernier. Une première question un peu personnelle, si vous le permettez, Thomas Dvorak. Vous qui connaissez bien l'Afghanistan pour y avoir effectué plusieurs séjours, pour y avoir travaillé dans les années 90 et au début des années 2000, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à ces événements, par rapport à cette reprise du pouvoir des talibans 20 ans après avoir été chassés par les Américains et l'OTAN ?
Personnellement, je suis très triste. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est une catastrophe pour la population. Et par rapport à mon travail, c'est un peu ça. J'ai l'impression que ça ferme un cercle. Moi, j'ai couvert la guerre de 2001, quand les Américains et la coalition anti-taliban ont chassé les talibans. Et à l'époque, on les voyait pas. C'était les chimères. C'était entre guillemets l'ennemi de l'autre côté du front. Et voilà. Maintenant, ils sont 20 ans plus tard. Ils sont de retour.
Vous avez vraiment l'impression d'un retour 20 ans en arrière?
Bah, oui et non. Là, je pense qu'on est dans une situation très confuse, parce que là, les derniers jours, il y a aussi toutes ces déclarations des talibans qui jouent un peu au
prétendent avoir changé.
Qui font les déclarations, qui rassurent les gens. J'aimerais bien pouvoir y croire, mais non.
La première fois que vous êtes allé en Afghanistan, Thomas Dvorak, c'est en 1993, 4 ans après le retrait des Russes, qui avait été suivi d'une guerre entre les principales factions moudjahidines. Comment se passe à l'époque votre séjour? Qu'est-ce que vous avez pu voir de l'Afghanistan de cette époque-là?
Non, mon tout premier voyage était un voyage très catastrophique, en fait, parce que je suis rentré du Tadjikistan, du Gorno-Badakhchan, la partie montagneuse du Tadjikistan, dans une zone qui était contrôlée ça s'appelait la Northern Alliance, l'Alliance du Nord. Mais tout début, après le grand temps que j'ai passé en Afghanistan, c'est à partir du 11 septembre.
C'est-à-dire en 2001, quelques mois après le début de la guerre, vous êtes envoyé sur place par le grand magazine américain, le New Yorker. Qu'est-ce que vous voyez de l'Afghanistan à ce moment-là?
Je pense qu'il y avait un décalage assez bizarre, je pense, parce qu'on est évidemment une des réactions normales après le 11 septembre, comme photographe, c'était de partir en Afghanistan. Tout le monde a essayé, il y avait énormément de journalistes, on était des centaines et des centaines. Et à l'époque, jusqu'à l'intervention des Américains, rien n'avait changé. C'était un peu l'Afghanistan comme dans ces villages au nord de Kaboul. C'était un peu la vie quotidienne. Il y avait très peu de combats. Après, ça a bousculé vers Kaboul. Mais...
Et comment a réagi la population avec laquelle vous avez été en contact à ce moment-là, à la chute du régime des talibans et à cette arrivée de l'armée américaine et des forces de l'OTAN?
Au moment, c'était un moment de l'espoir. C'était un moment où on était heureux. Ben évidemment, les talibans étaient partis. Les coiffeurs rouverts. Il y avait toutes ces petites histoires de... Le vendeur de CD qui commence à revendre des films, le musicien qui... Bah, surtout par rapport aux droits des femmes. Il n'y avait pas un enlèvement du burqa en groupe tout de suite, mais bon, il y avait quand même un esprit de liberté.
De ce séjour, vous avez tiré un livre qui est devenu célèbre et même culte, Taliban, publié en 2003, dont une partie, d'ailleurs je le signale, est exposée cet été aux rencontres de la photographie d'Arles. Et alors là, c'est une histoire vraiment incroyable. Je vais vous laisser nous raconter, Thomas Dvorak, l'histoire de ces clichés dont vous n'êtes pas l'auteur.
C'est pas mes photos, si je les ai trouvées. En fait, c'est un peu le parcours classique du journaliste. À l'époque, moi, il y avait la chute de Kaboul. Après, on s'est précipité vers Kandahar. Et on est arrivé juste après la chute de Kandahar dans les mains de l'opposition anti-taliban. Et je pense que c'était le deuxième matin que je sors de l'hôtel. Et je vois, il y a des anciens magasins photos qui étaient fermés pendant l'époque des talibans, qui réouvraient et qui étaient en train de vider leur vitrine et jeter des photos. Il y avait des très belles photos qui me plaisaient. Je ne savais pas que... C'était des photos de qui? Il y avait deux, trois magasins, des petits magasins. Et les propriétaires, ils me disaient, voilà, c'est les talibans, ils vont plus venir à récupérer leurs photos. Et voilà, ils sont partis, c'est la fin. Problème, je les ai achetés, j'ai acheté les photos. Et, en fait, l'histoire derrière, c'était que le taliban, qui, dès ma connaissance, c'était quand même le premier régime islamiste qui avait instauré une interdiction totale de l'image. De l'image de êtres humains, dans toute la ville, dans toute la zone contrôlée par eux, il n'y avait plus d'images humaines et animales. Alors du coup, apparemment, ce qu'ils racontaient les photographes, c'était quelques années après leur prise du pouvoir, ils avaient quand même besoin de photopasseport. Et alors ils ont revenu et le même personne, en gros, qui avait interdit la photographie, la production d'images, ont redemandé aux photographes de se faire photographier, d'abord de faire les photopasseports classiques, mais aussi ils ont demandé de se faire photographier à l'ancienne.
Mmh. Et là, ça donne vraiment des images extrêmement étonnantes, parce que on voit ces combattants talibans sur des fonds colorés, fantaisistes, avec des fleurs, les yeux soulignés d'un trait de colle. Mais ce qui est frappant, c'est vraiment le contraste entre ces images stylisées et l'image publique qu'on a des talibans, c'est-à-dire d'individus extrêmement, extrêmement austères.
Oui, et bon, maintenant, je suis un peu confus là, les derniers jours. Il y a quelques années, je me demandais toujours qu'est-ce qu'ils auraient fait, les talibans, dans une... Là, c'est quand même aussi la fin de l'époque analogue en photo, un peu, je pense. Depuis le 11 septembre, après, les smartphones, c'est arrivé quelques années plus tard. Mmh. Les gens, ils ont commencé à se photographier sur leur portable. Ils n'ont plus allé chez le magasin photo du coin pour se faire un portrait. C'est quelque chose qui n'existe plus comme technique. Et là, je vois des photos qui sortent sur les réseaux sociaux, qui sortent de Kaboul, qui sont un peu encore cette forme de se présenter, un peu d'avoir les airs innocentes. Et, voilà.
Puis vous y retournez quelques années plus tard, en 2009 et jusqu'en 2014, où vous passez là de longues périodes embedded, comme disent les Américains, c'est-à-dire que vous suivez l'armée géorgienne, car on le sait peu, mais la Géorgie s'est engagée aux côtés de la coalition en Afghanistan dès 2004. Et quelles étaient les missions de l'armée géorgienne à l'époque?
La Géorgie a quand même choisi de faire du vrai, entre guillemets. Ils ont choisi de faire des vraies opérations de combat.
Vous vous inspirez de cette expérience ainsi que de vos reportages en Irak, où vous avez suivi aussi cette armée géorgienne. Dans votre dernier livre dont je parlais tout à l'heure, The Bridge, alors là, c'est vraiment un concept très original, puisque avec vos co-auteurs, Ineke Smits et Jérôme Strotz, j'espère que je les ai bien prononcés, vous avez pris le parti de partir de ces photos que vous aviez prises en Afghanistan et en Irak, et d'en tirer une sorte de scénario sur l'après 11 septembre, sur ces 20 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça et pourquoi ce choix? Comment vous est venue cette idée?
Non, je pense journalistiquement, mon idée, c'est en dehors de mon lien avec la Géorgie, qui date depuis... Moi, je viens ici depuis 30 ans et je l'ai vécu longtemps. Je me sens très attaché à la Géorgie. Ça m'a toujours intéressé comment ils sont les Géorgiens en Irak, en Afghanistan. C'était aussi dans le contexte de regarder cette grande guerre, qui est quand même une guerre très définitive pour les États-Unis et pour l'Afghanistan, à travers un troisième acteur, ce qui était la Géorgie. Les Géorgiens, on savait pas. C'est un peu un peuple entre les deux. C'est un peuple qui est pas établi. Oui, ils essayent de se rapprocher de la communauté européenne. Ils essayent de se rapprocher de l'OTAN, des Américains et tout ça. Et ça se passe à travers leur engagement dans ces conflits. Il y a toujours l'élément de film, il y en a toujours ça, parce qu'on dans le Embed, on regarde énormément de films, parce qu'il y a des heures et des journées d'attente. Moi, j'ai jamais vu autant de films dans ma vie qu'en Afghanistan. Et des films de guerre. Alors, je pense que c'est un peu venu de ça, l'idée. Et, je voulais pas le faire comme un vrai récit. Alors, je pensais, il y avait tellement de la proximité humaine avec les soldats, avec les officiers que j'ai eu, qui s'est pas traduit en photo. Ça serait devenu très statique, en photo. Je voulais avoir cet élément, comme ça, avec Kinek et Jérôme. Je leur ai parlé, eux, ils savent comment écrire des scénarios. Moi, je suis pas écrivain. Alors, on a inventé cette histoire qui est évidemment fiction, mais basée sur tout ce qui est dedans et à peu près basée sur du vrai.
Le Nouveau Monde aujourd'hui, Thomas Dvorak, il est sur Instagram ?
Ouais, Twitter, Instagram.
Je vous pose la question parce que vous avez développé cette passion, pour les clichés publiés sur Instagram, en particulier par des photographes donc non professionnels, que vous vous amusez à collecter, c'est ça, et à retravailler.
Bon, c'est venu d'autres situations, circonstances. Peut-être c'est un peu mon doute normal sur ce que j'ai fait, mais c'est aussi, je sens, quand je regarde, j'ai beaucoup de curiosité pour ça, ça m'intéresse plus. Même là, pour Afghanistan, oui, il y a quelques photographes qui sont très courageux, qui font un excellent travail là-bas, mais ce qui m'étonne souvent le plus, c'est des photos qui sont faites par des gens qui ont peut-être a priori pas une prétention photographique. Et grâce à Instagram ou grâce au portable, au smartphone, ce sont devenus des photos utilisable, c'est plus la photo amateur comme avant. Avant, ça a toujours eu une touche. Soit c'était pas utilisable, c'était pas si bien, mais là, c'est des très bons documents. Je trouve que c'est très fort. Comme consommateur de photographie ou collectionneur de photographie, j'ai beaucoup plus de. Souvent, j'ai plus d'intérêt à ça.
Thomas Dvorak, on termine avec la question rituelle de l'émission. Quel est, selon vous, l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Quand vous avez posé la question, j'ai choisi l'image en Afghanistan. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, on voit des images, il y a des émissions télé, etc. Mais est-ce qu'on va revenir à un monde qui va être contrôlé, où il n'y aura pas de... Il n'y aura plus d'images, il n'y aura plus de photographes qui n'auront plus le droit de travailler, je ne sais pas.
Merci beaucoup Thomas Dvorak d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc le titre de ce livre que vous vous apprêtez à publier en auto-édition, The Bridge. Ça va paraître dans les premiers jours du mois de septembre. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Un Monde Nouveau sur France Inter.
Merci à vous.
Les jolies choses du duo français Polo et Pan que nous avions reçu en juillet dans Un Monde Nouveau. Une mélancolie heureuse et un air de vacances pour ce morceau issu de l'album Cyclorama en partenariat avec France Inter.
Un monde nouveau. Sonia Quironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Marie Boëton, journaliste à La Croix l'Hebdo. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et Nelly Capriellan, journaliste et critique littéraire aux Inrocks. Bonjour à vous Nelly.
Bonjour Sonia.
On commence avec vous Marie, et ce soir vous nous parlez des exosquelettes, ces structures robotiques longtemps cantonnées aux séries de science-fiction et qui pourraient bien, à terme, révolutionner la vie de millions d'individus.
Oui Sonia, alors le terme d'exosquelette, avouons-le, fait peur. De quoi s'agit-il ? D'une structure mécanique, adaptée au corps humain et qui vient en quelque sorte le doubler pour lui apporter une assistance physique.
Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Alors ces outils futuristes ont quitté ces dernières années les laboratoires expérimentaux pour équiper d'abord l'armée et permettre par exemple aux soldats de tenir plus longtemps sur un terrain d'opération tout en portant des charges relativement lourdes. Dans un tout autre domaine, les exosquelettes peuvent aider à la rééducation des personnes accidentées et surtout, offrir une assistance à la marche aux personnes paraplégiques. Mais ce n'est pas tout. Depuis peu, ils investissent le monde du travail, dans l'industrie, la logistique, le BTP. L'idée cette fois, c'est de soulager les salariés qui seraient soumis à des tâches continuelles et répétitives afin d'éviter d'éventuels troubles musculo-squelettiques.
Intéressant, hein. Il s'agit de simples expérimentations ponctuelles ou vraiment d'un marché d'avenir ?
Écoutez Sonia, on en voit encore peu sur le terrain, c'est sûr, mais c'est clairement un secteur d'avenir. Les Américains, les Japonais, les Israéliens, mais aussi, c'est notable, quelques acteurs français l'ont compris et investissent désormais dans ce domaine. Le marché mondial des exosquelettes est aujourd'hui estimé à 2,6 millions d'unités et pourrait, selon les prévisionnistes, peser plus de 3 milliards de dollars en 2025. Oui. Vous le voyez, on quitte clairement le marché de niche. Et ce, d'autant plus, vu les évolutions technologiques à venir, les exosquelettes actuels ressemblent aujourd'hui encore à de massives armures, mais devraient demain être plus légers et plus souples, s'apparenter presque à des combinaisons de plongée, bref, à des vêtements intelligents.
Et donc, on s'approche là de cet homme augmenté dont on entend tant parler.
Ben, tout dépend de quoi on parle, Sonia. Quel objectif vise-t-on ? Quel public cible-t-on ? Permettre à une personne handicapée de retrouver la marche ne relève pas en soi de l'homme augmenté, on est plus sur une réparation-guérison. Ensuite, prévenir les troubles musculo-squelettiques au travail s'inscrit dans une approche sanitaire plutôt louable, sauf à ce que cela vise in fine à accroître les cadences et à augmenter artificiellement la productivité des salariés. Quant au militaire, bah lui il est en parfaite santé a priori. Les équiper d'exosquelettes a clairement pour objectif d'accroître leur capacité naturelle d'endurance et de résistance. Alors s'approchons dans ce cas de l'homme augmenté, bah, l'armée française s'en défend en disant que certes elle équipe ses hommes d'exosquelettes mais qu'elle refuse catégoriquement les techniques dites invasives sur ses soldats telles que l'injection de substances ou bien la pose de puces sous-cutanées à suivre. Mais n'esquivons pas la question de fond. L'exosquelette n'est-il qu'un outil de plus parmi ceux qu'on fabrique depuis la nuit des temps ? Ou déjà, une façon inassumée de repousser nos limites ? Chacun jugera. Et pour ceux qui peinent à se frayer un chemin entre d'un côté l'enthousiasme béat des transhumanistes et de l'autre les lamentos du camp technophobe, un conseil, relisez Orwell, qui disait « Quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande avant tout s'il nous rend plus humains ou moins humains. »
À méditer, merci Marie. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix l'Hebdo et que le magazine prépare pour la rentrée un dossier de 12 pages sur nos habitations de demain, construire moins, construire mieux. On continue avec vous maintenant, Nelly Capriellan. Vous suivez la rentrée littéraire pour Les Inrecuptibles et vous avez eu envie de nous parler ce soir de quatre jeunes auteurs du monde nouveau.
Oui, parce que parmi les 521 livres qui déferlent aujourd'hui en librairie, on a eu envie de s'intéresser un peu aux jeunes voix qui émergent et qui se confirment et qui risquent d'être un peu oblitérées par les stars de la rentrée. Alors nous, ce qu'on a, on a été attentifs à quatre jeunes auteurs qui s'appellent Mariam Majidi, Mathieu Palin, Kaoutara Archi et Marin Fouquet. Ils ont environ une trentaine d'années et ce qui est passionnant avec eux, c'est qu'ils décalent la littérature du centre, c'est-à-dire qu'ils ramènent la marge au centre de la littérature de l'édition parisienne. Ils nous parlent de la vie en banlieue, de la précarité, de l'expérience de grandir en France quand on est enfant d'émigré. Est-ce que c'est possible de s'intégrer ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on n'éprouve pas un sentiment de désintégration ? Alors, pour entrer un peu dans le détail des livres de chacun de ces jeunes auteurs, avec « Pour que je m'aime encore » au Nouvel Attila, Mariam Majidi raconte son enfance à Drancy. Alors elle n'est pas émigrée, elle est plutôt exilée, puisque ses parents ont quitté Téhéran, l'Iran. Elle nous parle de son enfance par le prisme de l'école. On est tout le temps dans l'école. Et comment elle va se heurter à un moment donné où elle progresse dans ses études, elle va se heurter à un plafond de verre en prépa. Sa question c'est, est-ce qu'on est tous égaux face aux institutions en France? Kaoutar Archi, elle est enfant d'émigrés marocains et elle fait le récit de son enfance dans une cité HLM en banlieue dans son nouveau livre qui s'intitule « Comme nous existons chez Actes Sud » et elle parle spécifiquement des injustices de classe ou de race qu'elle y a vécues. On poursuit avec Mathieu Palin dont c'est le deuxième livre, c'est de la narrative non-fiction cette fois. Ça s'intitule « Ne t'arrête pas de courir » et ça sort chez l'Iconoclaste. Et Mathieu Palin, il ausculte le destin contraire au sien alors qu'ils sont tous les deux nés à Ris-Orangis, de l'athlète Toumami Koulibaly. Elle a remporté un championnat olympique et qui s'est retrouvé tout de suite à faire des cambriolages et à être jeté en prison. Donc il va l'interviewer en prison et il reconstitue comme ça la vie d'un jeune émigré malien. Qu'est-ce que c'est que d'avoir grandi à Montreuil et pourquoi à un moment donné, même quand on est un des plus grands athlètes de France, on part en vrille, on fait des cambriolages et on se retrouve arrêté dans sa course en fait et on est jeté en prison. Enfin, Marin Fouquet, lui, nous plonge le temps d'une nuit dans un commissariat avec GAV, qui sort chez Actes Sud. Alors, GAV, ce sont les initiales de garde à vue. Et à travers cette nuit, parmi les gens qui se trouvent être en commissariat, en garde à vue, il nous offre une coupe transversale d'un peu tous les niveaux sociaux de la classe française.
Et la question que vous vous posez ce soir, Nelly, c'est et si c'était depuis cette marge que va émerger la littérature la plus excitante de ces prochaines années ?
Bah oui, parce que là, encore une fois, qui est excitant, je trouve, avec ces jeunes auteurs, c'est qu'ils dressent un portrait sans concession de la France d'aujourd'hui. Ils nous parlent de leur vécu, ils ouvrent les portes à de nouvelles voix qui jusque-là étaient plutôt rares, qu'on entendait assez peu. Alors, on les retrouvera bien sûr, ces quatre auteurs, mais parmi d'autres, dans notre dossier de rentrée littéraire.
On suivra ça avec attention. Les Inrocks, donc, à retrouver en ligne et chaque mois en kiosque. Merci beaucoup Nelly Capriellan et merci à vous, Marie Boéton de La Croix L'Hebdo. En marge, elle l'a été, mais Tracy Dessa est aujourd'hui une artiste qui prend de plus en plus la lumière, rappeuse, polyglotte et féministe. Née en Inde il y a 29 ans, elle a grandi au Portugal et en Espagne avant de venir s'installer en France il y a 10 ans. Un parcours multiculturel dont elle se sert pour enrichir sa musique. Après un premier album remarqué, Commotion, sorti en 2019 et un passage en demi-finale de l'Eurovision, et oui, on va en parler, son deuxième album, In Power, est attendu à l'automne, le 8 octobre prochain précisément. Elle va nous interpréter un extrait inédit en live dans quelques instants depuis le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Bonsoir Tracy Dessa.
Bonsoir.
On va vous écouter donc chanter dans un instant, mais d'abord je crois que vous aviez envie de réagir au sujet qu'on évoquait dans la première partie de l'émission, l'Afghanistan. Vous voulez dire un mot à l'adresse des femmes afghanes?
Oui, justement dire qu'en fait cette situation nous montre à quel point nos droits ne sont pas acquis et qu'il faut continuer à battre tous les jours. Et je voulais aussi rappeler aux gens qu'en étant en France, on a accès à des ressources. Et du coup, c'est notre devoir aussi de pouvoir aider les femmes dans ces situations-là. Et surtout, quand les demandeurs d'asile vont arriver en France, qui sont déjà en train d'arriver d'ailleurs, qu'on puisse les aider, qu'on puisse faire des donations, les aider à trouver du logement et les accompagner parce que personne ne voudrait se retrouver à leur place.
Power au pouvoir, c'est le titre de ce deuxième album. Tracy Dessa, vous allez maintenant vous installer car vous allez nous interpréter un extrait inédit de ce deuxième album ce soir sur France Inter, Cortex. Tracy Dessa, c'est à vous.
It's your girl Tracy Dessa, live sur France Inter. Let's go. It's dark inside my head, you can blame that gray matter. I got two perfect hemispheres working with each other, sapiosexual. Cause for deepness, I'm a sucker. And if you ask me, it's a bad yes, I'm a
I know my body political. I'm into thinking it critical. Like my soul memory been off for centuries. Gotta convince with the physical. I can be clever and lyrical. They notice that my face ain't typical. I had to build up on my confidence. Burning my image to not be invisible. Provocative, I raise my voice. I twerk and I fuck, cause it is my choice. I could ride a full dissertation if you need me to prove a point. But I like when I talk and come out and politely. The system affected my psyche. So we're setting a new trend. Cause bad bitches had a new wifey. In the vortex, I know that they unprotected, but my cortex tell me you don't like it. In the vortex, I know that they unprotected, but my cortex tell me you don't like it. Figure what made me a human. Figure what made me a woman. Something supernatural sets in my laterals, but leave me until it's proven. Sexy and me, we a twosome. Big headed like Jimmy Neutron. Just looking for truth while I spit in this booth. Maybe I'm trapped in a Truman. Guess what's that's me from committing a homicide. I feel pretty, I can't sacrifice. My suck is a de-stereotypes. Oh no, you're lacking the thing that they call common sense. On another pilot, thinking with your pants. Living your life at her expense. Ain't it a total offense? The shit that I say ain't even original. I'm tired of repeating myself. I'm just at the minute. Tell me you don't like it. In the vortex, I know that they unprotected by my cortex. Tell me you don't like it. Disturbing me and my skills. I ain't gonna settle for this shit. I'm not taking pills. My brain is the best software network in the mills. My creator opens gates and pages like OnlyFans to pay my bills. In the vortex, I know that they unprotected by my cortex. Tell me you don't like it. In the vortex, I know that they unprotected by my cortex. Tell me you don't like it.
Tracy de Sa au pouvoir ce soir sur France Inter Cortex, extrait donc de l'album In Power qui sortira à l'automne prochain. La première chose qu'on entend évidemment et qu'on remarque quand on vous entend chanter Tracy de Sa, c'est que vous chantez en anglais. C'est assez rare pour une rappeuse française. L'anglais, c'est votre langue maternelle, c'est ça?
C'est ça, exactement. En fait, moi, je suis indienne. Donc, je suis née à Goa, qui est une ancienne colonie portugaise. Mais quand j'avais 2 ans et demi, j'ai déménagé au Portugal. J'ai vécu là-bas 1 an pour faire la demande de la nationalité portugaise. Ensuite, j'ai déménagé en Espagne, où j'ai grandi, parce qu'il y avait ma tante qui habitait là-bas. Et ensuite, j'ai déménagé en France en 2011. Donc, en fait, l'anglais est resté ma langue maternelle. C'est la langue dans laquelle je m'exprime le mieux. Et c'est avec ça que j'ai commencé à écrire du rap.
Alors, dans ce morceau Cortex, vous envoyez balader les stéréotypes. Oui, oui, on peut être une femme, on peut être jolie, on peut être sexy et on peut avoir 2 hémisphères bien faits. C'est ce que vous racontez dans la chanson. Vous en avez douté, vous, à un moment, de pouvoir être tout ça à la fois?
Bien sûr, en fait, je trouve qu'on habite dans une société qui nous dit tout le temps que les femmes, soit on est belle, soit on est intelligente. On peut pas être les deux et on peut pas avoir des études, être éduquée, cultivée et en même temps accepter le fait qu'on soit belle et attirante et qu'en fait on doit forcément dissocier les deux. Et je trouve que c'est super important de rassurer les femmes sur les deux côtés. On peut être les deux, on peut assumer les deux côtés. Et en fait, c'est pas parce qu'on est belle qu'on est moins intelligente et c'est pas parce qu'on est intelligente qu'on est moins belle ou qu'on doit se cacher. Et les hommes et les gens qui nous entourent, en fait, devraient aussi nous donner la légitimité et la valorisation pour pouvoir exprimer les deux côtés sans forcément que ça ait des impacts sur justement les opportunités qu'on a.
Le corps est politique.
Exactement.
Ce que vous dites dans la chanson.
Ouais, je pense que le corps véhicule les dictats de la société. Et en fait, moi, j'ai décidé par mon parcours, par rapport à mon parcours de féministe, et pendant que j'ai grandi en tant que femme immigrée de couleur, j'ai décidé qu'en fait, avec mon corps, je voulais transformer la narrative, parler vraiment de ce que moi je voulais qu'on pense des femmes, donner l'image que moi je voulais que les femmes aient de soi-même. Et du coup, c'est avec ça que j'ai commencé à comprendre que mon corps était politique et j'ai commencé à utiliser ça dans les réseaux sociaux, dans mes clips, dans ma musique, dans ma vie de tous les jours, parce que c'est important qu'on le sache et qu'on le comprenne et qu'ensuite on l'utilise comme on veut.
L'engagement féministe, il est présent dans tout l'album, hein, dans une chanson qui s'appelle Flirtaholic, accro au flirt. Une autre qui s'appelle Bitch, vous chantez en anglais chaque jour, on me traite de bitch. Je crois que je commence à aimer ça. Est-ce que tu sens le pouvoir? Ou encore She Rose. Alors ça, vraiment, c'est superbement trouvé, puisque vous féminisez le He Rose anglais. On écoute un extrait.
I ain't got nothing to lose. You can't shatter something that's already broken. And though you've trespassed against me, for my little sisters that door won't be open. We're coming in troops. I'm pussy power. Pussy power is our slogan.
Pussy power, un slogan à l'adresse des petites sœurs. Le pouvoir du sexe féminin, comment vous définissez, Tracy de ça, ce pouvoir? En quoi il consiste, selon vous, dans le seul fait d'être une femme?
Pour moi, ça passe par la prise de conscience, déjà. Le fait que nos corps, comme on disait, sont politiques et aussi qu'ils ont un sens. Et en fait, qu'on a beaucoup de méconnaissance par rapport aux parties de notre corps. Moi, je sais que quand j'étais petite, la première fois que j'ai eu mes règles, j'avais 9 ans. Et je savais pas du tout ce qui s'est passé dans mon corps. Je pense qu'il y a un manque d'accès aux informations quand on est fille. Et quand j'ai appris récemment que le clitoris est arrivé dans les livres de SVT en 2017, j'ai été complètement choquée, parce que c'est hallucinant qu'on ne nous parle pas d'une partie si importante de notre corps, une partie qui nous donne du plaisir, que du plaisir en fait, et justement on nous nie ça, parce que en fait les femmes, on n'aurait pas accès à ça, on n'aurait pas le droit d'avoir une vie remplie de plaisir, d'amour et de bonheur, et en fait on doit être toujours au service des autres. Et pour moi c'est important de reprendre le contrôle sur nos corps, se réapproprier de nos histoires, et justement revendiquer le fait que nos parties génitales font partie de nos histoires, elles font partie de nos traumatismes, elles font partie de notre image, de l'image qu'on a de nous-mêmes, elles font partie de comment les gens nous traitent. Et du coup c'est important de revendiquer que en fait, nos corps sont pas juste un objet sexuel. En fait, on est beaucoup plus que ça. On est très complexe. On est merveilleuse. On est inspirante. Et du coup, on est très, très forte. Et en fait, c'est important de dire, qu'on a du pouvoir. Et ce pouvoir, il faut le reprendre. Et il faut arriver à contrôler sa vision, sa vie, ses expériences, ses choix. Et pour moi, ça passe aussi par le fait d'accepter sa sexualité, son corps et du coup, la relation qu'on a avec nous-mêmes.
Et de l'assumer dans les chansons de cet album In Power. Cet engagement féministe, il ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a quelques années, il y avait déjà eu mini falda, mini jupe en espagnol. Un morceau donc sur la liberté de pouvoir porter des mini-jupes. Ça vous a pris du temps à vous, Tracy de ça, de pouvoir porter librement des mini-jupes?
Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal en fait.
Bonjour.
C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Je me suis rendu compte il y a 2 ans, quand j'avais 27 ans, que j'étais incapable de mettre une mini-jupe. Alors que dans ma tête, la mini-jupe, c'était l'objet révolutionnaire que les femmes dans les années 50-60 avaient porté avec beaucoup de pouvoir, en revendiquant qu'elles s'étaient réappropriées de leur corps, qu'elles avaient la liberté d'exprimer leur féminité comme elles voulaient. Et aujourd'hui, en fait, la mini-jupe est considérée comme une invitation, comme une excuse pour justifier une agression sexuelle. Et du coup, on a complètement changé le rôle de ces vêtements. Et finalement, on arrive dans une société qui est censée être ouverte, mais qui finalement renferme beaucoup les femmes, juge beaucoup les femmes pour leur manière de s'habiller. Et du coup, finalement, on perd en sécurité, on perd en confiance. Et finalement, on met en place plein de stratégies de contournement quand on sort. Parce que si on porte une mini-jupe, on va se faire agresser. Si on part le soir avec une jupe, en fait, c'est dangereux. Donc en fait, on va devoir tout le temps réfléchir à comment s'habiller, quel transport on va prendre, à quelle heure on va sortir, par quel quartier on va passer, si on a de l'argent pour payer un Uber pour rentrer. Et en fait, ça fait partie de tout un écosystème qui fait que finalement on est beaucoup plus opprimé qu'est-ce qu'on en pense.
Donc même vous, Tracy de ça, malgré tous ces engagements que vous clamez haut et fort dans vos chansons, vous nous le dites ce soir, même moi je n'arrive pas à m'habiller exactement comme je voudrais.
C'est ça, exactement, surtout parce que moi je suis dans un milieu très masculin, et en fait je me suis rendu compte que depuis des années j'ai copié, j'imitais les codes vestimentaires des hommes, parce que je voulais m'intégrer, je voulais être acceptée, je voulais pas qu'on me regarde, je voulais être un peu invisible. Et du coup je m'habillais en large et j'ai régné totalement ma féminité, jusqu'au jour où je me suis rendu compte en fait que ça c'était pas moi, et que pour accepter mon identité, accepter qui j'étais, et aussi donner un peu au hip-hop et donner un peu de ma culture au rap, il fallait que je sois vraiment en phase avec moi-même. Et de là j'ai commencé à plus me maquiller, à plus mettre des crop tops, plus montrer ma peau, et j'ai vu comment le regard des gens a changé. Ça a beaucoup interpellé, parler, on a commencé à débattre et finalement je vois que la mentalité elle commence à changer aussi et ça c'est bien.
Dans le hip-hop, vous voulez dire ?
C'est ça. Beaucoup de rappeurs au début qui me disaient que je cherchais de l'attention, que je vendais mon corps parce que je m'habillais comme ça et que du coup j'avais pas de talent parce que du coup il fallait que ça passe par mon corps pour pouvoir vendre entre guillemets. Et en fait au fur et à mesure ils se sont rendu compte qu'en fait c'était pas, il y avait un fond derrière tout ce que je disais, qu'en fait ma technique n'avait pas changé, au contraire elle s'est améliorée au fur et à mesure des années et qu'en fait j'ai jamais arrêté de travailler sur mon art juste parce que j'ai commencé à m'épanouir comme femme.
On a souvent l'image du hip-hop comme d'un milieu machiste. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a plus de machistes que dans le reste de la société ? Et est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça avance selon vous ?
Alors pour moi, l'hip-hop ne fait que recopier des systèmes de domination qui existent déjà dans la société. Le hip-hop n'a pas inventé le sexisme, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui définit l'hip-hop, c'est qu'en fait, c'est un genre musical où il n'y a pas de tabou, où il n'y a pas de limites, et donc on peut dire tout ce qu'on veut. Mmh. Mais pour moi, le problème n'est pas forcément que les rappeurs arrivent à faire des chansons misogynes ou qu'il y ait des femmes un peu dévoilées dans leurs clips. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour le contrebalancer. Il n'y a pas des femmes visibles sur la radio qui sont aussi en train de mettre des gars à moitié dénudés. Et du coup, en fait, on a une vision très, très stricte de ce que ça doit être la réalité. C'est une réalité qui est très fausse. Et donc, en fait, il faut contrebalancer ça, quoi.
Mais vous êtes là ce soir sur France.
C'est ça.
Merci de ça. Et parmi les femmes qui vous ont inspiré et montré le chemin, il y a eu par exemple MIA.
C'est ça.
Borders 2016. MIA Borders, MIA anglaise d'origine sri-lankaise et qui aborde, comme vous, des thématiques autour de l'identité.
Exactement, quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie parce que en fait moi quand j'ai grandi et j'écoutais la musique, il n'y avait jamais des femmes comme moi de couleur qui avaient un parcours migratoire similaire au mien. Mmh. Et je me souviens la première fois que j'ai vu MIA à la télé, je devais avoir 12-13 ans, j'y suis restée scotchée en mode pourquoi il y a une fille qui me ressemble et pourquoi elle a la télé et pourquoi elle chante. J'ai été complètement choquée et ça m'a ouvert beaucoup les portes pour m'imaginer différemment que dans le rôle de mère au foyer ou de prof ou de simple immigrante. Je pouvais être quelqu'un qui participe à la culture.
Une autre femme qui a ouvert beaucoup de porte aux autres femmes dans le rap, c'est bien sûr Lauryn Hill. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about Lauryn Hill, Doo Wop, That Thing, 1998, l'ancienne chanteuse des Fugees, l'une des premières rappeuses à s'être imposée dans ce milieu jusque-là très masculin. Alors là, on est en 98, vous aviez 6 ans.
C'est ça.
Et si vous écoutiez déjà à 6 ans ?
Bien sûr, peut-être que j'écoutais moins, mais j'ai redécouvert les chansons de Lauryn Hill plus tard, où j'ai pu comprendre vraiment la profondeur de ses textes et en fait la qualité de son personnage aussi, parce que c'est une des premières femmes qui est arrivée avec son militantisme, avec sa propre définition de la féminité, avec sa propre définition de l'industrie musicale. Et en fait, ça a été un grand exemple. Elle a ouvert la porte pour toutes les femmes qui sont arrivées après. Et donc, ouais, c'est incroyable le travail qu'elle a fait.
On va remonter encore quelques années jusqu'en 1990. Let's talk about sex. Yes. Salt and Pepper.
Come on.
Let's talk about sex, baby.
Mais là, on est en 1990. Vous n'étiez même pas née, Tracy de ça. Comment vous avez découvert ça?
Ça fait partie de la culture, je pense. Et pour moi, c'est une chanson qui est tellement parlante parce qu'aujourd'hui, 30 ans après, on est encore en train de lutter pour les mêmes choses, pour pouvoir parler ouvertement du sexe, du corps et de dire que les femmes sont aussi des êtres sexuels et qu'on a le droit au plaisir. On est encore dans les mêmes luttes, même s'il y a 3 décennies qui sont passées, quoi.
On va parler d'une autre expérience marquante. C'était en 2019. Vous avez participé, Tracy de ça. Alors là, on change de registre. À la demi-finale de l'Eurovision avec Por Aquí. Ça m'a étonnée, Tracy de ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors l'Eurovision, c'est pas l'ancien monde pour une jeune femme d'aujourd'hui ?
Bah, on va dire que c'est une émission qui est restée très ouverte, que moi j'ai écoutée pendant toute mon enfance, j'ai suivi ça de très près. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de représentation au niveau du hip-hop et du rap, mais c'est une porte qui m'a donné plein d'opportunités dans le reste du monde, surtout en Europe. Et franchement, c'est une expérience que je garde à vie parce que c'était super enrichissant.
Et puis à l'Eurovision, vous avez croisé lui.
On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur, plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes.
Youssoupha, on se connaît avec Eina. Qu'est-ce qui s'est passé avec Youssoupha le soir de la demi-finale de l'Eurovision?
Eh ben c'était trop bien, Youssoupha est venu accompagner une autre artiste qui s'appelle Noémie. Et en fait, il a vu que du coup j'ai pris le rap en main, je suis allée représenter une musique qui est la musique qui vend le plus en France mais qui n'est jamais représentée dans les émissions télévisées. Et du coup, que j'ai joué vraiment le rôle de participer à l'émission, de faire tout ce qui va avec, les chorés, la danse, les images, les couleurs qui vont avec, mais tout en représentant la technique du rap et les valeurs de solidarité et de partage et de danse et de fête qu'on prend dans cette musique-là. Et donc, c'était un échange super beau que j'ai eu avec lui, et c'était super bien d'avoir aussi la validation d'un homme et d'un rappeur qui est là depuis des années. Quoi.
In Power, c'est donc le nom de ce deuxième album qui va sortir à l'automne, le 8 octobre. On va s'écouter un nouvel extrait, In Between.
Yes.
It's a buzzy power, buzzy, buzzy power. It's a buzzy power.
Elle chante le pouvoir du sexe féminin, le pussy power. Tracy de ça est ce soir sur France Inter pour nous parler de ce deuxième album qui sort donc le 8 octobre. Tracy, on vous a demandé, proposé à l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique de livre de choisir un livre ce soir dont vous avez envie de nous parler. Qu'est-ce que vous avez choisi?
Ok, j'ai choisi Présente de Laurent Bastide parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui a créé beaucoup de contradictions chez moi. Parce que au début, quand je lisais, j'étais tellement rassurée de savoir que toutes les micro-agressions que j'avais subies pendant ma vie, en fait aujourd'hui elles portent un nom et sont définies et que finalement en fait c'est pas des cas isolés. Je me suis pas retrouvée rattrapée dans un cas isolé. C'est vraiment des mécanismes qui sont universels et qui sont très répandus et qu'il faut mettre le doigt dessus pour les déconstruire. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup de la peine et c'était très frustrant de savoir qu'aujourd'hui on en est encore là et qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'en fait on aura toujours la charge mentale en tant que femme de devoir expliquer comment on nous opprime et en même temps travailler nos oppressions, les traiter, les digérer et pour pouvoir vivre une vie pleine et libre. Et en fait, c'est ce livre m'a aussi beaucoup rassurée dans le fait que Laurent Bastide, c'est une féministe blanche et elle a pas parlé que de ça. En fait, elle a mis en valeur des femmes racisées, des femmes handicapées, des femmes de religions, traditions différentes. Et du coup, ça, c'était super, super important pour moi que du coup, on soit de moins en moins invisibilisés et qu'on nous donne un peu de place dans l'espace public.
Merci d'avoir occupé cette place ce soir sur France Inter. Tracy de sa In Power, c'est donc le titre de ce deuxième album qui paraîtra le 8 octobre. C'est la fin de l'émission Un Monde Nouveau. C'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission. Et les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir. Sofiane Aktib, Un Monde Nouveau, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain avec le philosophe Éric Fiat et le chanteur Saint-DX. Après le journal de 19h, vous retrouvez Le Téléphone Sonne avec Éric Delvaux. Ce soir, l'éco-anxiété, le mal du 21e siècle.